Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une histoire politique assez complexe, celle des figures qui ont un peu façonné les débuts du Front National, vous voyez, autour de Jean-Marie Le Pen. Une exploration de ce que notre source appelle le canal historique.
C'est ça, on a un document portrait nationaliste, l'ancien Front National, et il nous dresse une galerie de portraits, oui, assez fascinante. L'idée, c'est de comprendre un peu mieux les différents courants, qui étaient parfois très très différents, et qui ont cohabité au début de ce mouvement.
Et la source, elle fait une distinction importante, je crois, entre deux grandes tendances.
Oui, tout à fait. D'un côté, il y a ce qu'elle appelle les doctrinaires. Eux, ils sont vraiment ancrés dans des idéologies précises, comme le catholicisme traditionnaliste ou une doctrine sociale un peu particulière, le solidarisme. On y reviendra peut-être.
D'accord.
Et de l'autre côté, des profils qu'elle qualifie d'hybrides ou de pragmatiques, disons plus tournés vers la stratégie politique, le concret.
Ok. Avant d'aller plus loin dans les noms, peut-être juste un mot sur ces termes. Hein. Nationalisme, bon, ça va, primauté de la nation. Mais ce solidarisme, ça recouvre quoi exactement?
Alors, d'après ce qu'on lit, le solidarisme s'est présenté comme une sorte de troisième voie, vous voyez, économique et sociale. Ça cherche à dépasser à la fois le libéralisme et le collectivisme marxiste. Le texte parle aussi de la révolution nationale, hein, le projet de Pétain, comme une référence pour certaines de ses personnalités.
D'accord, c'est plus clair. Alors justement, qui on trouve parmi ces fameux doctrinaires, selon le texte?
Il y a plusieurs noms qui ressortent. Par exemple, Jean-Louis Tixier-Vignancourt, un avocat très connu à l'époque pour ses discours.
Ah oui, Tixier.
Voilà, décrit comme monarchiste, pro-pétainiste. Et anecdote intéressante, Jean-Marie Le Pen a été son directeur de campagne en 65. On a aussi François Brignot, cofondateur du FN. Lui, il est présenté comme pamphlétaire, issu du catholicisme intégral.
Qu'est-ce que c'est le catholicisme intégral?
C'est une frange très très traditionnaliste du catholicisme. Et Brignot est aussi décrit comme ancien milicien, mais repenti.
Des parcours déjà assez marqués, oui. D'autres noms?
Oui, la source cite aussi François Duprat. Lui, c'était une figure intellectuelle importante pour une partie du mouvement. Il est vu comme le théoricien du courant dit national-révolutionnaire.
National-révolutionnaire?
Oui, un courant qui prenait une Europe unie, mais contre le communisme et le capitalisme américain, en gros. Le texte le présente aussi comme négationniste. Il a été assassiné en 78, d'ailleurs, et ça reste une affaire non élucidée.
Et Jean-Pierre Stirbois, on le classifie aussi.
Oui, effectivement. Il est associé au courant solidariste dont on parlait, mais il est surtout connu comme l'artisan de la percée électorale de Dreux, en 83.
Ah oui, Dreux, ça, c'était un moment clé pour le FN.
Exactement, un tournant. Sa mort dans un accident de voiture en 88 est mentionnée. Sa veuve, Marie-France Stirbois, qui lui a succédé en politique, a toujours parlé de circonstances suspectes.
D'accord.
Et puis le texte évoque aussi de manière plus controversée, disons, des vétérans de la collaboration ou même de la Waffen-SS, comme Léon Gauthier, qui a cofondé une maison d'édition avec Le Pen, la SERP, ou Pierre Bousquet, le premier trésorier du parti.
D'accord. Ça donne une première image très idéologique finalement et assez hétéroclite. Mais vous parliez aussi des pragmatiques. Qui sont-ils?
Alors là, on change un peu de profil, oui. Le texte met en avant Bruno Gonininch, par exemple. Longtemps, une figure importante du FN au Parlement européen, il représente une ligne qu'on appelle national-catholique. Ou alors Jacques Bompard, maire d'Orange pendant très longtemps. Lui, il a développé un concept de national-localisme, très axé sur l'action municipale, le terrain, avant de rompre d'ailleurs et de fonder son propre mouvement, la Ligue du Sud.
Et puis il y a le nom qui revient souvent quand on parle de cette période-là, Bruno Maigret. Le stratège, c'est ça? Qu'est-ce que la source en dit?
Ben justement, le document le décrit comme un technocrate. C'est un polytechnicien, il venait du RPR, l'ancien parti gaulliste.
Ah oui, c'est vrai.
Et il incarne une approche plus nationale républicaine. Il est devenu numéro 2, il a vraiment essayé de moderniser l'image du parti. C'est lui qui a poussé cette idée de dédiabolisation, l'implantation locale aussi. Bon, avant la grosse scission de 98, où il est parti créer son propre parti, le MNR.
Et la source laisse entendre que sa méthode, elle a eu un impact durable, même après son départ.
Oui, c'est ça. Elle présente sa stratégie, professionnaliser les cadres, adoucir un peu le discours, chercher une forme de respectabilité, comme une sorte de matrice, si on veut, pour ce qu'est devenu le Rassemblement National aujourd'hui. Même si Maigret, lui, s'est retiré de la vie politique depuis.
Donc, ce qu'on retient de ce tour d'horizon, basé sur ce texte, c'est que le FN historique était finalement bien plus diversifié idéologiquement plus riche, peut-être, qu'on l'imagine souvent, avec des parcours personnels parfois extrêmes, oui.
C'est tout l'intérêt du document, je trouve. Il montre bien que ces personnalités venaient d'horizons très variés. Action française, les milieux militaires des guerres coloniales, anciens collabos. C'était un mélange assez étonnant, uni par une certaine idée d'une France aimée, assiégée. C'est l'expression de l'auteur. D'ailleurs, l'auteur du texte, il ne se gêne pas pour contraster cette histoire militante large, comme il dit, avec ce qu'il perçoit comme la médiocrité actuelle du RN. Ça, c'est son analyse à lui.
Oui, bien sûr, on rapporte le point de vue de la source. Pour conclure, peut-être une question qui émerge de cette lecture. Au-delà des jugements qu'on peut porter, est-ce que comprendre ce panthéon des dissidences, comme l'appelle le texte, avec tous ces courants, ces figures parfois très controversées, en quoi c'est pertinent aujourd'hui ?
C'est la question de l'héritage, en fait.
Exactement. Quelle part de ces pélitages complexes, parfois lourds, assumés ou refoulés, pèse encore, consciemment ou non, sur l'extrême droite française actuelle. Voilà, peut-être une réflexion à poursuivre.